7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, une question, le consommateur est-il en train de prendre le pouvoir? Ah, le pouvoir du consommateur dans une société de consommation, vieille rengaine, vieux rêve. Mais depuis quelques années, il se passe quelque chose. Avec la crise du pouvoir d'achat, on fait attention à tout ce que l'on dépense. Et avec surtout Internet, tout devient possible. Comparer les prix partout, de jour comme de nuit, acheter en groupe, négocier et surtout attendre que les prix baissent. Encore. Alors, s'agit-il d'un mouvement minoritaire, de bobos militants qui rêvent vaguement à la décroissance, ou bien s'agit-il d'un nouveau style de vie, pragmatique, généralisé? Nous allons parler de cette révolution silencieuse des mentalités avec plusieurs spécialistes de la consommation et puis de l'inquiétude du commerce en face. Xavier Charpentier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général associé de Free Thinking Publicis et vous êtes l'un des auteurs d'une étude qui s'appelle Rétention, Déflation, Réinvention. Philippe Jourdan, bonjour.
Bonjour.
Vous vous définissez comme un consologue, PDG de Promise Consulting. C'est un cabinet d'études marketing et de conseil en stratégie de marque. Et vous avez publié Un nouveau consommateur, nouveau marketing. Et Yves Marin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert de la grande distribution au cabinet d'études Kurt Salmon. Et puis en fin d'émission, on écoutera un reportage de Charlie Dupio sur les troc parties. C'est simple, un appartement, des filles qui s'échangent des fringues et zéro bénéf pour l'économie. C'est ce qui s'appelle passer sous la couverture radar du commerce. Et quant à vous les voisins, vous avez la parole si vous avez envie de réagir. Que se passe-t-il dans le monde de la consommation? 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques interventions sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook. On est à plus de 80 000 fans désormais. Merci les voisins, c'est sympa de nous suivre. Et les voisines, évidemment. Le consommateur a-t-il pris le pouvoir? Réponse de 100 banques étalomées au Togo. Ah, c'est difficile à dire dans le contexte africain parce que la diversité des produits est là. Moins cher en plus, mais la qualité n'est pas au rendez-vous. On est obligé d'acheter le même produit plusieurs fois. Oui, sous-entendu, il casse. Lambert, lui, on ne sait pas où il est, mais en tout cas, il nous dit, pour moi, il est important d'acheter au lieu de discuter jusqu'à en être épuisé, car le temps perdu à économiser 25 ou 50 francs CFA, c'est-à-dire entre 4 et 8 centimes, pourrait être consacré à faire du bon boulot. Même constat chez cette voisine au Cameroun, pour des biens de consommation courants, dès que j'ai les sous, si le prix est raisonnable, j'achète. Je perds pas mon temps à comparer. Mais, nous dit cet internaute, pour des biens chers ou des biens durables, c'est clair qu'on parcourt les magasins en période de solde de préférence pour évaluer avant d'acheter. Ou encore, Hospice qui est à Parakou au Bénin. En réalité, c'est le vendeur qui propose toutes ces alternatives parce qu'il se rend compte de jour en jour de la faiblesse du pouvoir d'achat du consommateur. À première vue, on croirait que c'est le client qui en profite vraiment, mais il n'y a que le vendeur qui en tire le profit maximum. Ou encore Bertrand, à Bruxelles, mon astuce, moi je commande directement sur des sites marchands chinois, seul inconvénient, les délais de livraison sont longs, en moyenne 4 semaines, c'est ce qui s'appelle réfréner son désir, voilà. Vous nous appelez si vous avez envie de réagir de vive voix. Le consommateur a-t-il pris de pouvoir dans la guerre des prix au 33 1 84 22 71 71?
J'essaye d'acheter moins les aliments qui ne sont pas importants.
Je n'hésite pas à prendre des trucs d'occasion ou en promotion.
Je surveille toujours les prix, prix ou pas. Je regarde toujours en bas des rayons ou tout en haut.
Je calcule toujours les prix au kilo. C'est comme ça que je vois si c'est moins cher ou pas.
Moi, je regarde directement les promos. Sinon, tout est cher.
C'est vendu par lot et puis c'est plus intéressant.
Lorsque vous faites vos courses au supermarché, vous prenez le temps de comparer les prix.
Les produits de qualité, je vais comparer parce qu'il y a tellement une différence de prix énorme en fonction des magasins que c'est là que je pense qu'il y a plus de moyens de gagner de l'argent, quoi.
Des pâtes, des riz dans des magasins du genre discounter, ça coûte un peu moins cher par rapport à magasins classiques.
Il arrive souvent que un jeu dans telle enseigne coûte 45 euros et qu'il coûte 40 dans une autre, voire 35 dans une troisième. Et donc, je fais souvent des allers-retours dans les magasins. C'est aussi bête que ça.
Certains clients font leurs courses dans plusieurs magasins différents pour économiser, ça vous arrive?
Oui, bien sûr, ça m'arrive selon les produits que je trouve ou pas dans les supermarchés discount ou pas, je vais à droite, à gauche.
Et avec la crise, vos habitudes de consommation ont changé?
Oui, puisqu'avant, en fait, j'achetais sans faire attention effectivement aux étiquettes.
Avant, on avait dans l'idée que forcément, si ça a été un prix élevé, c'était forcément de meilleure qualité qu'une sous-marque, mais maintenant, les sous-marques font d'aussi bonne qualité que certaines grandes marques.
Maintenant, je prends le temps de comparer, de regarder les différences de prix et puis de faire le bon choix.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum.
Sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Vous êtes bien chez 7 milliards de voisins. Le consommateur a-t-il pris le pouvoir pour ceux qui en rêvent? Xavier Charpentier, l'étude que vous publiez révèle des changements qui s'annoncent durables dans les comportements des consommateurs. Alors que se passe-t-il exactement depuis la crise de 2008?
En fait, ce qui se passe par rapport à ce que disaient d'ailleurs les gens qu'on a entendu interviewer, en fait, tout ce qu'ils disent est dans l'étude, ou plutôt notre étude fait état de tout ce qu'ils disent.
Donc, il y a vraiment,
voilà, exactement. Il y a quand même une congruence qui est très forte puisqu'ils nous parlent d'occasion, ils nous parlent de prix, ils nous parlent de prix au kilo, ils nous parlent de comparer. Ils nous disent que finalement, ça c'est plus spécifique à des pays comme la France ou sans doute l'Allemagne qui a une culture de la frugalité. Crise ou pas, ils vont continuer à consommer différemment et à faire très très attention, même si demain la croissance revient. Donc il y a des effets cliquets qui se mettent en place sur la consommation. Et puis ils nous disent aussi, moi acheter un jeu, quelqu'un le dernier je crois nous dit, moi acheter un jeu vidéo à 55€, c'est idiot parce qu'on peut trouver à 45 ou à 50. Et maintenant, de plus en plus d'ailleurs, ils nous disent, on a des gens sur notre plateforme qui nous l'ont dit en ces termes, c'est, on ne comprend pas qu'on puisse acheter un jeu à son prix alors qu'on trouve d'occasion sur Internet quelques mois plus tard, pratiquement 50% moins cher.
Vous nous dites, en France, en Allemagne, on vit dans une culture de la frugalité. Vous nous racontez ça à nos auditeurs qui vivent en Afrique. C'est quoi cette culture de la frugalité? Là, j'en découvre quand même.
La culture de la frugalité, c'est assez traditionnel en Allemagne, c'est très nouveau en France. En France, ça a quelques années. On va dire que ça s'est installé progressivement, puis ça a été accéléré par la crise 2008. C'est une culture, on va dire, dans laquelle on fait effectivement attention à tout et dans laquelle on sort mentalement, si je puis dire, de la société d'abondance. Donc on considère qu'on n'est plus dans une société d'abondance où tout est facile, où on peut acheter sans trop regarder les prix, et on rentre dans une société qui est plus raisonnée, qui est avec une consommation qui est beaucoup plus examinée, on va dire, qui nous rapproche effectivement peut-être d'ailleurs d'économies qui ne sont pas les économies d'abondance des pays du Nord qu'on connaît depuis 30 ans.
On aurait des mentalités qui seraient en train de se sudifier d'une certaine façon?
En tout cas, de se modifier, se modifier, oui. Alors peut-être pas se sudifier, mais peut-être revenir, on va dire, à des mentalités qui étaient plus celles de nos parents,
sans même parler de nos
grands-parents, donc dans l'Europe d'après-guerre, où effectivement on sortait de périodes où il y avait du rationnement, où c'était pas évident, où économiquement c'était quand même difficile, et où donc effectivement un sou était un sou. Là aujourd'hui, un euro est un euro. C'est sans doute dû aussi en France, notamment à l'arrivée d'une monnaie forte. En France et dans les pays du sud de l'Europe, là aussi c'est assez nouveau. Les Allemands sont habitués à vivre depuis très longtemps avec une monnaie forte dans laquelle un marque, ça compte. En France, en Italie, en Espagne, au Portugal, un franc, une lire, un escudo, une pesette, ça comptait moins qu'un marque. Aujourd'hui, un euro, ça compte. Et donc, il faut faire attention à la façon de dépenser. Oui.
Philippe Jourdan.
Oui, alors, effectivement, c'est un comportement de comparaison systématique. C'est un comportement, alors, peut-être pas de frugalité quand même, sauf, ne l'oublions pas, que nous avons quand même de nouveaux pauvres en France. Il compte aujourd'hui, si on prend la définition de l'INSEE, il compte pour près de 8 millions de nos concitoyens. Ce sont des gens qui nous racontent que leurs fins de mois sont gérées à quelques dizaines d'euros près. Donc oui, un euro, ça compte. Et je dirais que ce phénomène s'accentue aussi parce que on a de plus en plus de dépenses contraintes. Que ce soit des loyers, que ce soit donc le coût de l'EDF, le coût des abonnements. Et donc, la part que l'on peut dépenser librement, que l'on peut s'autoriser à dépenser librement tous les mois, cette part se réduit. Ce qui fait que le consommateur, finalement, qui évalue sa richesse et sa liberté de consommer sur cette part qu'il peut dépenser librement, a le sentiment qu'il est de plus en plus contraint.
Donc finalement, on est dans un anti-modèle de la société de consommation. La société de consommation, c'était, finalement, on ne compte pas. Enfin, on est libéré de compter en permanence de cette période jusqu'à l'après-guerre. Xavier Charpentier.
Oui, c'est vrai qu'on est sur quand même un changement de modèle. Alors ça fait un peu, il y a un côté un peu ronflant dans la façon de dire, mais quand même, à un moment donné, on est en train d'assister à quelque chose qui change vraiment radicalement. Il y a un chiffre, Philippe parlait des dépenses contraintes, qui est très intéressant. Alors j'ai plus le chiffre exactement en tête au pourcentage près, mais en revanche, c'est une étude du Crédoc qui date maintenant d'il y a 2 ou 3 ans. Le Crédoc a mesuré qu'en fait, la part des dépenses contraintes préengagées, donc gaz, électricité, énergie, carburant, logement, loyer évidemment. Dans le budget d'un ménage en France, d'un ménage de classe moyenne, du bas de la classe moyenne, ça représente environ 30%, ce qui est énorme. Mmh. Ce qui est très intéressant dans ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les 30% en question, 5 ans avant, ils étaient déjà présents, mais non pas dans le budget des classes moyennes, dans le budget des classes populaires. Mmh. Donc en réalité, le changement de modèle, c'est que la classe moyenne aujourd'hui en France se met à vivre comme les classes populaires, il y a quelques années.
Donc il y a une réelle baisse du pouvoir d'achat, mais pas qu'en France.
Il y a une réelle baisse du pouvoir d'achat, alors en France notamment, dans beaucoup de pays d'Europe, naturellement. Il y a aussi eu une baisse du pouvoir d'achat aux États-Unis, par exemple. On en parlait avant l'émission, Barack Obama lui-même a très bien expliqué comment finalement la crise des subprimes, la crise du subprime avait été en partie, en grande partie liée au fait que les classes moyennes américaines, les classes moyennes inférieures américaines avaient acheté des maisons avec des crédits très très risqués parce qu'ils avaient simplement pas les moyens d'acheter des maisons avec un crédit normal, on va dire, parce que leur pouvoir d'achat avait été laminé pendant des années.
Et là, cet exemple est intéressant parce que, en réalité, la baisse du pouvoir d'achat aux États-Unis est compensée par une société qui continue à consommer et à vivre à crédit.
Oui.
Et là, on a un modèle culturel.
Tout en ayant ce modèle de comparer les prix en permanence. C'est-à-dire, même avant l'Internet, il y avait la culture du coupon, ce qu'on appelle les coupons dans les, dans les supermarchés, où on stocke des petits tickets pour avoir des réductions en permanence sur le prochain achat. Ça, c'est depuis toujours aux États-Unis.
Tout à fait, mais on était quand même sur un rythme de consommation relativement effréné, parce que le coupon, c'est une réduction valable sur le prochain achat. Ça suppose déjà d'être engagé dans une démarche de rachat. Donc, on voit bien qu'on a une société où, finalement, la réponse à la réduction du pouvoir d'achat, c'est de vivre un petit peu au-dessus de ses moyens. Tous les pays ne peuvent pas se le permettre. Les États-Unis, culturellement, l'ont toujours fait.
Ouais. Mmh. Et les Français n'aiment pas ça. Les Français n'aiment pas cette culture de vivre au-dessus de ses moyens.
Pour
l'instant,
les Français n'aiment pas ça.
De pas très moral, finalement, hein, dans l'esprit français. Yves Marin, alors du coup, vous qui êtes spécialiste de la grande distribution, quelle est l'ambiance du côté de la grande distribution et de ceux qui fabriquent les produits?
Alors, il y a un peu de tension, forcément, chez nos amis commerçants, qui sont très à l'écoute des évolutions des consommateurs et qui sont en réaction la plus rapide possible. Et d'un côté, on peut dire que rien ne change, et c'est vrai que d'un autre côté, leur métier évolue beaucoup. Alors, on reste toujours sur des achats qui sont partagés. Il y a une partie d'utilité réelle des produits, de valeur d'usage, une partie d'imaginaire. Donc, il y a toujours beaucoup d'imaginaire dans les achats. Il y a une partie des achats qui sont listés, prévus. Il y a une partie des achats qui sont des achats d'impulsion, décidés sur le lieu de vente. Voilà, il y a certains ressorts de consommation comme ça qui perdurent depuis l'après-guerre et qui sont les mêmes.
Alors,
maintenant, ce qui change effectivement. Voilà, ce qui change effectivement, c'est que le tissu commercial est saturé, que la concurrence entre les commerçants est plus grande, et que l'envie de consommation, effectivement, l'envie des consommateurs est un peu moins présente. Les gens se réalisent moins par leurs achats, ils ont moins besoin de se réaliser, ils sont quand même un tout petit peu plus dans le partage et dans une économie nouvelle. Et voilà. Ça, c'est une nouvelle donne à prendre en compte par les
commerçants. Le consommateur, donc, consomme de moins en moins. Est-ce que, paradoxalement, on dit qu'il a pris le pouvoir? On va en parler dans quelques instants. The soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart. The curtains have opened, but I've been watching everybody play the part. Think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited? Charlie Winston chez 7 milliards de voisins. Vous êtes bien sûr RFI. On parle des consommateurs aujourd'hui. Vraie révolution dans les comportements. Vous nous parliez d'ailleurs tous les trois de l'imaginaire, parce qu'on est dans un monde économique bien réel et en même temps, l'imaginaire n'a jamais eu autant de poids dans l'acte d'achat. Qu'est-ce qu'un prix? Qu'est-ce qu'un prix juste? Les Français, ce qui est sûr, c'est pas qu'en France, hein, dans tous les pays d'Europe qui connaissent une réelle récession économique, dépensent de moins en moins de produits de grande consommation. Ils ont du mal à boucler leur fin de mois, vous nous le disiez. Ils sont inquiets aussi. Alors Xavier Charpentier, l'inquiétude, c'est pas la même chose que d'avoir du mal à boucler ses fins de mois.
Non, c'est vrai qu'il y a une... En fait, c'est la vraie question, le vrai risque dans des pays riches, on va dire, qui sont en train de devenir moins riches, c'est quand l'inquiétude devient une culture. Et donc finalement, quand elle vient d'une certaine façon, nous c'est ce qu'on a essayé de mettre en valeur dans l'étude qu'on a faite, parce que c'est vraiment ce que les gens nous ont fait passer comme message. Finalement, le fait d'avoir moins d'argent à dépenser, d'avoir moins de pouvoir d'achat, la contrainte devient elle-même une culture. C'est-à-dire que c'est un peu la fable de La Fontaine, le renard et les raisins verts. Si on ne peut pas attraper les raisins qui ont l'air délicieux, on va finir par dire finalement ils sont verts, ils sont pas mûrs, ils sont pas bons du tout. Je ne les mangerai pas, c'est pas très grave, ça va pas me manquer. C'est un peu cette culture-là finalement qui est en train de s'installer dans les pays.
Donc l'inquiétude et la défiance alors.
L'inquiétude d'une part et puis d'autre part la défiance effectivement qui est là pour le coup qui pose beaucoup de questions par rapport aux entreprises, parce qu'à un moment donné quand on a moins d'argent à dépenser, qu'on devient un peu déflationniste finalement en se disant bah je dépenserai mon argent demain ou voire je dépenserai pas du tout, et qu'en plus on a le sentiment que le système des prix devient complètement anarchique ou que il y a une espèce de complot, on va dire, alors à la fois des producteurs, de la grande distribution pour nous faire payer moins cher, les gens deviennent un petit peu paranoïaques, oui, en un sens.
Mais alors finalement le consommateur a-t-il pris le pouvoir ou pas? Il a de moins en moins d'argent et on se pose cette question-là, ça peut sembler paradoxal. Comment vous voyez les choses tous les trois, Philippe Jourdan?
L'évolution culturelle vers un consommateur qui va comparer de manière plus systématique, qui va être beaucoup plus défiant vis-à-vis des marques, qui va demander ou rechercher plus de garanties, on la constate. Maintenant, il faut aussi, je pense, rester optimiste. Cette culture de la comparaison systématique, elle est chronophage. Elle prend beaucoup de temps. Elle est anxiogène.
Ils le disent, ils le reconnaissent, les consommateurs. Hein,
elle est anxiogène.
Sur Facebook, ils nous disent, est-ce que ça vaut vraiment le coup, hein?
Exactement. Certains commentaires, d'ailleurs, le laissaient déjà apparaître. Elle est anxiogène, parce que si vous recherchez le prix le plus bas, il n'y a qu'à se livrer à un exercice très simple. Hein, prenez un comparateur de prix et essayez d'acheter un billet d'avion. Vous n'êtes jamais satisfait du prix payé, parce que vous vous dites, finalement, si j'étais allé un tout petit peu plus loin, est-ce que j'aurais pas eu un billet moins cher? Donc vous n'êtes jamais sûr de payer le bon prix. Et effectivement, cette instabilité émotionnelle par rapport au prix, par rapport à la bonne affaire, par rapport à l'achat réalisé une fois celui-ci réalisé, etc., redéfinit des règles qui laissent le consommateur profondément insatisfait parfois.
Ouais. Mais alors, ce consommateur de plus en plus pauvre a-t-il réellement de plus en plus de pouvoir au regard de la grande distribution pour laquelle vous travaillez, Yves Marin ?
Alors, il se trouve que les deux ont plus de pouvoir, que les commerçants sont plus puissants, ils sont plus concentrés, ils sont plus internationaux.
Vous parlez des grandes enseignes de supermarchés.
Voilà, enfin, de Carrefour, Sephora, enfin, ou d'autres, ils sont plus puissants eux aussi, et en même temps, c'est vrai, les consommateurs sont plus informés, ils sont plus aguerris, donc les deux ont gagné en savoir-faire. La différence de fond, quand même, fondamentale, c'est que les consommateurs, jusqu'à présent, votaient avec leur portefeuille, et que de plus en plus, ils votent avec leur souris ou leur smartphone, c'est-à-dire qu'ils ont un feedback de réputation auprès des commerçants, et que par le buzz, par la réputation, par les réseaux sociaux, ils ont introduit une boucle de feedback, une boucle de retour, une boucle de commentaires, qui n'existait pas il y a 10 ans.
C'est-à-dire une culture du système D, où on se refile les bons plans, c'est ça sur un...
Voilà, les bons plans ou les très mauvais plans, et donc une réputation peut être extrêmement rapidement défaite. Hein, et la fortune des marques est plus fragile. Donc les commerçants sont plus sensibles à la fois à la sanction économique des clients, et à la fois à la sanction en termes de buzz, de réputation, de retour sur Internet, etc.
Jamais on a eu aussi peur, on a autant redouté le client, finalement.
C'est exactement ça.
D'une certaine façon.
Voilà, il y a un rapport de défiance des clients par rapport aux commerçants, où ils sont en train de se dire, oulala, ces gros monstres internationaux de Sephora ou d'autres, est-ce que je suis pas en train de me faire avoir? Et il y a aussi un rapport effectivement de crainte des commerçants vis-à-vis du consommateur de base.
Vous restez avec nous, messieurs. Le consommateur est-il en train de prendre le pouvoir dans la guerre des prix? Les voisins, les voisines, si vous êtes en train, de surfer sur Internet pour comparer les prix, ou si vous êtes sur la route, dans les embouteillages pour aller faire des courses, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, retour dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant sur RFI, juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est bien 7 milliards de voisins sur RFI, émission de société. On analyse les évolutions de nos modes de vie du lundi au vendredi et du nord au sud. Alors aujourd'hui, le consommateur est-il en train de prendre le pouvoir? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais été autant observé, ce consommateur, ce client, ausculté, retourné sous toutes les coutures. Quand ces temps de crise ou malgré la baisse des prix, il cherche toujours moins cher. Ai-je payé le prix juste? Voilà l'obsession du consommateur. On en discute avec vous, Xavier Charpentier, pour l'étude que vous avez réalisée, que vous réalisez depuis plusieurs années d'ailleurs, chez Free Thinking Publicis, Philippe Jourdan de Promise Consulting, cabinet d'études marketing, et puis vous avez publié à nouveau Consommateur, nouveau marketing, et Yves Marin, vous êtes spécialiste de la grande distribution chez, redites-moi le
Kurt
nom,
Salmon.
Voilà, Kurt Salmon, pardon. Alors, il y a la révolution d'Internet, il y a la révolution des comparateurs de prix. On le disait en première partie, finalement, on n'a jamais autant vécu dans une société, entre guillemets, de radins, parce que les fins de mois sont difficiles. Xavier Charpentier, vous nous le disiez, pas qu'en France, d'ailleurs, les gens sont réellement à 40 euros près à la fin du mois pour une bonne partie d'entre eux.
Ça, c'est notamment le cas en France, mais évidemment, c'est le cas ailleurs qu'en France, et puis dans des économies, des sociétés moins riches que la France, c'est encore plus, naturellement, c'est encore plus prégnant comme réalité. Et donc oui, ça veut dire que effectivement la référence, on va dire, la référence financière, la référence prix change. Donc 10 euros, ça devient très important. Si on parle en euros, 10 euros, ça devient en fait très important. Faire une économie de 10 euros, c'est pas une économie négligeable.
Ça peut étonner certains de nos auditeurs. Alors justement, est-ce que cette société de la défiance du consommateur qui cherche toujours moins cher, qui a de moins en moins confiance dans ce que lui vend le commerçant, est-ce qu'on retrouve cette attitude-là dans les pays émergents ou pas du tout, selon vous, Philippe Jourdan?
Je crois que c'est à la limite l'adoption par nos pays de comportements que l'on observait ou qui traditionnellement étaient attachés plutôt aux pays émergents. J'en citerai deux. La redécouverte du commerce de proximité, qui est une forme de distribution largement répandue par exemple en Afrique. Eh bien aujourd'hui, on a de la part de consommateurs une vraie volonté finalement de se tourner plus souvent vers des commerces de proximité.
C'est pas forcément moins cher.
C'est pas forcément moins cher, mais ça a plusieurs atouts. Le premier, c'est de peut-être redécouvrir aussi la qualité de l'accueil, la proximité, la relation avec ces commerçants de quartier. La deuxième, c'est que beaucoup de consommateurs nous disent finalement, je préfère parfois rentrer dans un petit magasin qu'aller faire mes courses en hypermarché parce que je suis sûr d'y contrôler la dépense. Lorsque je rentre avec 15 euros, j'y dépense 15 euros. Alors que lorsqu'on rentre parfois dans certains centres commerciaux, eh bien, on s'aperçoit qu'on est tenté de dépenser plus.
Ouais, on est mangé par le sorcier marketing.
On est en quelque sorte mangé par le sorcier marketing. Je citerai par exemple un site en Angleterre qui propose de faire ses courses près de chez soi sans bouger. J'ai trouvé l'initiative extrêmement intéressante. C'est pas...
C'est-à-dire près de chez soi
alors,
sans
près
bouger.
Près de chez soi sans bouger, c'est très simple. Ce sont des commerçants de quartier à qui vous vous adressez. À qui vous adressez votre commande, c'est le site
Hubhub,
donc par internet. Vous pouvez faire vos courses en ligne auprès de différents commerçants qui ont tous la particularité d'habiter près de chez vous, les bouchers, les poissonniers, les épiciers, etc. Le site se charge de ramasser l'ensemble des courses auprès des magasins et vous livre en une seule fois les produits frais, ou l'ensemble des produits frais commandés. Donc il y a cette, vous voyez, on n'est pas sur des places énormes, éloignées,
alors,
virtuelles, etc.
La réponse du consommateur défiant, méfiant de tout, en face, c'est l'imagination au pouvoir du côté des commerçants et du côté de la grande distribution. Alors Yves Marin.
Voilà, ce qui est compliqué pour les commerçants, c'est d'avoir une réponse à cette radinerie ou à ce souci d'économie du consommateur, mais qui va au-delà du prix physique des produits. Cette radinerie du consommateur, au fond, c'est ce que cherchent les clients, c'est à optimiser l'équilibre entre les coûts totaux dépensés dans leur magasin et les bénéfices recherchés. Mais ces coûts, ils vont au-delà du simple prix. C'est le prix, donc il faut des produits pas chers et des économies tangibles, mais c'est aussi, comme le disait Philippe, une économie de temps, une économie cognitive, c'est-à-dire une économie de pour comprendre est-ce que c'est compliqué ou pas de comprendre l'offre et de comprendre les produits. C'est cet ensemble des coûts économiques mais aussi cognitifs que le consommateur va chercher à réduire, et c'est pour ça que c'est compliqué.
Alors on parlait des pays émergents tout à l'heure, par exemple en Asie, est-ce que on trouve également ce questionnement par rapport au prix, puisqu'on sait que en Asie on est énormément sur Internet aujourd'hui?
Alors, en Asie, on a une culture de la consommation qui est un petit peu différente. Bon, quoi qu'il en soit, j'allais dire, pour certaines des activités, parlons du luxe, hein, du secteur du luxe.
Ouais, enfin ça, c'est pas la consommation courante.
Alors, c'est pas la consommation courante, mais le mouvement aujourd'hui, c'est effectivement la fin d'une croissance à deux chiffres, et on revient vers des croissances beaucoup plus raisonnables. Alors, il y a des phénomènes qui l'expliquent, hein, en Chine en particulier, qui n'est plus l'Eldorador qu'il avait pu être pendant des années. Il y a des phénomènes qui l'expliquent. Alors, il y a une lutte généralisée contre la corruption, qui fait que certains achats très ostentatoires sont plutôt aujourd'hui montrés du doigt. L'horlogerie au-delà de 20 ou 30 000 euros, on sait quelque chose. Mais ça va au-delà. Il y a aussi une éducation vis-à-vis des marques qui fait que aujourd'hui, nos fabricants ne peuvent pas se permettre d'ouvrir un magasin, d'y mettre n'importe quoi et de se dire ça va être vendu.
Xavier Charpentier, cette culture de la défiance, de la radinerie, comme vous le disiez Yves Marin, finalement, c'est aussi une culture de la négociation qui était absente de nos cultures européennes. Hein. Négocier, marchander, ça se fait beaucoup dans la zone proche-orientale, moyenne-orientale. Est-ce que ça a gagné l'Europe, ça, cette culture de la négociation, de la discussion sur le prix?
Oui, ça gagne l'Europe. Alors, ce qui est amusant, on parlait des pays émergents. On pourrait aussi parler, nous, c'est une idée qui nous était venue en travaillant sur une grosse étude internationale qui, justement, mélangeait des pays émergents et puis des pays entre guillemets riche il y a quelques années, on pourrait parler ici de pays immergents, en fait, parce qu'on voit quand même une espèce de croisement qui est assez troublant, où finalement il y a une espèce de réimportation de comportements qui viennent de pays émergents dans les pays anciennement riches. Et la négociation en fait sans doute partie, oui. Alors après, là où il y a une nuance à apporter, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la négociation, c'est pas forcément dans les pays anciennement riches, on va dire, c'est pas forcément chez les classes populaires que ça se pratique le plus. Ça peut être plutôt chez les CSP plus et chez les CSP moyenne plus, qui sont en fait plus habitués à discuter et surtout qui s'autorisent plus facilement de discuter un prix.
Finalement.
Qui sont décomplexés, qui s'autorisent plus facilement effectivement à discuter un prix, à essayer d'obtenir moins et à trouver
un accord. Alors vous nous disiez pendant le flash, là, vous avez des consommateurs qui régulièrement, une fois par an, prennent toutes leurs factures incompressibles, électricité, gaz, etc. et qui disent, bon allez, une facture après l'autre, j'appelle la concurrence, combien vous me faites par rapport à ce que je paye déjà.
Absolument, ça c'est un comportement qu'on a constaté, que les gens nous ont raconté.
Il faut avoir
le temps et le goût de l'effort. Alors c'est vrai par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, que les gens aujourd'hui cherchent quand même aussi, non seulement à économiser, mais à s'économiser. Donc ils font quand même de plus en plus attention au temps qu'ils vont prendre pour essayer d'obtenir moins. Cela dit, c'est effectivement un comportement qu'on a constaté, et ce qui est très amusant sur ce comportement de comparaison, on va dire, systématique, tous les ans ou tous les deux ans, de tous les contrats un peu fixes, hein, assurance, énergie, etc., fournisseurs d'accès à Internet. Nous, on s'est aperçu, ce qui est assez amusant, c'est que quand les gens commençaient à parler de ça sur les plateformes sur Internet, ils y passent la nuit, mais après, c'est une traînée de poudre. C'est-à-dire que finalement, les gens interagissent entre eux et se disent, c'est une très bonne idée, je vais le faire aussi. Oui, donc voilà, la contagion, on va dire, de nouveaux comportements.
Mais donc, c'est une passion?
C'est pas une passion, mais on va dire que c'est une discipline. Oui, c'est aussi ça, le changement de modèle. On acquiert une nouvelle culture et de nouvelles disciplines.
Il faut dire aussi que la loi a évolué, elle a pris le relais de ces nouveaux comportements, hein. Elle ne les crée pas, mais elle est là pour souvent les valider. On parle de la loi Hamon, par exemple. Aujourd'hui, on a dans le secteur des services, la banque et l'assurance, une réelle inquiétude parce que on donne plus de liberté aux consommateurs pour renégocier ces contrats sans attendre, vous savez, cette fameuse date d'échéance que nos assureurs vous cachaient jusqu'au bout, espérant que vous alliez reconduire tacitement votre contrat. Aujourd'hui, on peut le renégocier à n'importe quel moment. Ouais,
je voudrais qu'on laisse la parole à un voisin qui nous appelle, je crois, de région parisienne. Il s'agit d'un voisin malien. On est en ligne. Je redonne le numéro du standard quand même, au 33 84 22 71 71. On est en ligne avec Patrick. Bonjour Patrick, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, c'était comme je l'ai dit sur Internet, je constate que le pouvoir des consommateurs est un peu à double tranchant, en tout cas au Mali ici, parce que par exemple, je prenais l'exemple du poulet.
Le fameux poulet.
Voilà, depuis 10 ans que je vais là-bas, au début, on avait dans les restos de rue, on avait le poulet bicyclette, hein, malien typique.
Donc le consommé local.
Le consommé local, et aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible. On a du poulet congelé, qui est le poulet vraiment bas de gamme de ce qui se fait en Europe, quoi. et qui est moins cher, qui est moins cher que, pour vous donner un exemple, le poulet bicyclette que j'achète au marché de Bamako, je vais le payer 3000 ou 3500 francs, alors que le congelé, je vais le payer 1000 francs de moins.
Donc là, vous êtes en train de nous dire que la guerre, alors avec les surplus européens et nord-américains d'ailleurs, la guerre des prix tue en partie l'économie et le petit commerce.
L'économie locale, ouais, absolument. L'économie locale. Absolument, c'est un vrai problème. Et ça peut s'étendre au riz, à beaucoup de choses, quoi. Le riz malien est plus cher que le riz chinois.
Est-ce que le consommateur s'interroge sur ces choix-là où justement il n'a pas le choix, il doit chercher le prix le plus bas?
Il va au prix le plus bas. Hein. C'est comme ça qu'il y a eu des morts il y a quelques années à cause d'une huile frelatée parce que les gens ont acheté l'huile la moins chère possible et puis ça a fait des morts, quoi.
Alors justement
c'est un cas un peu exceptionnel, mais
sur les options d'achat, parce que finalement se dire on n'a pas le choix, il faut aller au prix le plus bas, ou est-ce qu'on a toujours le choix malgré tout, sauf si on est dans l'extrême survie, est-ce que ces questions-là se posent aussi en France ou pas du tout?
Oui, parce que effectivement le consommateur est connecté, il est mobile, voilà, donc on pourrait dire que son périmètre de chasse aux bonnes affaires s'est étendu. Or quand on regarde les critères de choix d'un magasin principal, le critère numéro un reste quand même et malgré tout la proximité. Donc les gens vont au plus près pour les raisons qu'on a évoquées, d'économie de temps et d'énergie de transport, etc. Donc cette liberté un peu factice qu'on pourrait penser sur le papier, en réalité est plus contrainte que ça et les gens vont au voisinage. On est dans une émission de voisins et les gens font leurs courses d'abord chez leurs voisins.
Oui, après c'est
Xavier
vrai que
Charpentier, là que vous évoquez l'exemple du poulet en Afrique.
Non, mais c'est un exemple qui est très intéressant et finalement qu'on peut tout à fait, alors sur d'autres produits, hein, mais qu'on peut tout à fait, comparer avec ce qui peut se passer ici en Europe sur ce débat entre la contrainte de devoir trouver le moins cher. Et puis l'aspiration à trouver quelque chose qui soit plus juste. Il y a un point qu'on a évoqué tout à l'heure sur le prix, par exemple, qui est très intéressant. Nous, ce qu'on a vu, c'est que quand il y a un vide ou une confusion dans l'esprit des gens sur la façon dont se fait un prix, ils ont tendance à le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent, de toute manière, je ne comprends plus comment le prix est défini par les producteurs, les distributeurs, donc je vais, moi, dire combien je suis prêt à payer et comment je considère qu'un prix doit être constitué. Et quand ils font ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, ils ont tendance, et c'est un peu aussi ce que nous dit Patrick, finalement, ils ont tendance, assez naturellement, à juger le prix avec des critères éthiques, en se disant, un prix juste, ça doit être un prix bien. Un prix équitable qui récompense le producteur, qui récompense, voilà, bon. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en réalité, quand on est en même temps contraint économiquement, on est un peu pris dans une espèce de contradiction qui est dure à vivre entre je considère que le prix juste, ça devrait être un prix qui récompense tout le monde, mais je n'ai pas les moyens de me payer ce prix-là, donc je vais aller au prix le plus bas, quitte à finalement, on va dire, renier sur ma volonté d'agir bien en tant que consommateur.
Alors, si ce n'est qu'à la grosse différence de la France, au Mali, Patrick, je pense que vous pouvez nous renseigner, on n'a pas de contexte de baisse des prix, même si le consommateur a souvent une baisse du pouvoir d'achat, mais les prix n'ont pas tendance à diminuer. Je pense que vous nous le confirmez, Patrick.
Non, effectivement, il y a surtout ces dernières années, avec la situation que le Mali a connue, les prix ont eu tendance à plutôt augmenter et effectivement, tout le monde, notamment
pour l'agroalimentaire, le célèbre panier panier de la ménagère.
Absolument, oui.
Certains parlent plutôt de sachet de la ménagère, c'est tout dire. Effectivement, symboliquement. Merci Patrick pour ce témoignage. Vous pouvez continuer à nous appeler au 33 84 22 71. En ce qui concerne l'Internet, aujourd'hui, rien ne serait possible. Toute cette révolution-là, de la défiance, de la comparaison permanente, de je m'informe, de ce travail, du labeur du consommateur, rien ne serait possible sans Internet.
Oui, et puis avec des évolutions aussi dans l'usage de l'Internet, je pense qu'on parle beaucoup de comparer les prix. L'ère des comparateurs a été sans doute la première révolution de l'Internet. Aujourd'hui, on est sur des modèles économiques qui peuvent bouleverser la relation qui peut exister entre l'acheteur et le vendeur. Je prendrai un exemple de site. Habituellement, vous allez vous rendez dans un magasin, y compris un magasin virtuel, vous avez un produit vendu à un certain prix. Aujourd'hui, vous avez des sites qui vous proposent, tout simplement pour le produit que vous souhaitez acheter, de donner un prix. Et c'est le commerçant lui-même qui va répondre s'il est ou non intéressé à vous vendre à ce prix-là. on inverse totalement la relation. On a un consommateur qui a pris le pouvoir, qui dit, ben, moi, cet appareil électronique, voilà ce qu'il vaut pour moi. Qui est prêt à me le vendre à ce prix-là? Extraordinaire.
Oui, et sur Internet, il y a eu une première vague, en fait, qui était une vague de liberté totale, où on avait accès à beaucoup d'informations, notamment où on pouvait comparer beaucoup de prix. Et là, les consommateurs sont dans une deuxième phase où ils sont en train de se dire, oulala, mais là, du coup, je deviens saturé d'informations, saturé de prix, et donc ils sont en train de mettre en place des nouveaux schémas intellectuels pour traiter cette masse d'infos
Le consommateur, lui, ne dit pas que les prix baissent, d'ailleurs. Il a jamais cette impression-là. Or, vous confirmez bien, du côté de la grande distribution, que les prix baissent réellement.
Les prix baissent structurellement depuis l'après-guerre. Cette année, en France, depuis le début de l'année, ils ont baissé de 1,5%. Donc, objectivement, les prix baissent. Le point, c'est que, en termes de pouvoir d'achat perçu, subjectif, les consommateurs ont l'impression inverse.
Vous restez avec nous dans quelques instants. Un reportage. Alors là, on n'est plus dans le monde du commerce. On est dans le monde du troc. Vous nous direz ce que cela vous évoque. Ça sera juste après Flavia Coelho.
Você foi embora sozinho, sozinho, deixando aqui a saudade, um vazio, vazio. Drama, raiva, choro, medo do futuro. Fiquei horas te esperando no frio, no frio, pra manter as aparências. Sorrio, sorrio, Cuba livre, short, som pós-dintim.
Ces derniers temps, la troc partie, puisqu'on parle du consommateur qui aurait pris le pouvoir sur le commerce, ou comment faire du shopping sans ouvrir son porte-monnaie. Vous apportez des vêtements que vous ne portez plus, vous les échangez contre des vêtements apportés par d'autres filles. Oui, là, c'est plutôt un phénomène entre filles. Ces troc parties étaient jusque-là organisées dans des bars. Aujourd'hui, ça se passe dans des appartements. Charlie Dupio s'est rendu à l'une de ces troc parties dans un petit logement dans la capitale française.
Bonjour. Ça va ? Laetitia,
une bise, allez.
Lala, on s'en tape.
Mylène.
Bon, voilà, moi, c'est ma deuxième troc partie.
Alors, j'ai un peu ramené toute mon armoire, c'était lourd. Donc, c'est un peu froissé, hein, mais bon.
Non, c'est pas grave.
Je pense qu'on est toutes pareilles.
Je m'appelle Imane, j'ai 25 ans. C'est moi qui organise cette troc partie chez moi. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Free Troc Party. Chacune qui veut organiser une troc party, elle poste là-bas son événement. On est des filles, on achète plein de vêtements et c'est l'échange des vêtements, donner une autre vie aux vêtements. C'est surtout des vêtements de prêt-à-porter.
Elle est à qui cette robe ?
Ça, c'est à moi.
D'accord, c'est quelle taille ?
Je sais pas, la mienne.
Bon, je vais essayer alors. Ici, il n'y a pas de cabine d'essayage, du coup, on essaye dans votre salle de bain.
Oui, exactement.
Là, je rentre dedans, donc ça me fait plaisir. En fait, c'est comme dans un magasin, sauf que c'est gratuit.
C'est ça, oui.
Alors, je m'appelle Mylène, j'ai 37 ans. J'ai déjà fait une troc party,
vider son dressing et récupérer de jolies affaires à moindre coût, c'est plutôt le côté bon plan. Parce que là, je suis en période de chômage, donc on va faire un peu attention, quoi. C'est tout. Qu'est-ce que vous espérez trouver aujourd'hui ? Quelque chose dans ma taille ? Non, quelque chose de tendance, de coloré, peut-être un chemisier. Donc en tout cas, la truck party, c'est convivial et c'est aussi une façon, comme vous dites, d'avoir un bon plan, donc de ne pas forcément dépenser.
Je me suis inscrite également à un site d'échange en ligne.
Alors racontez-nous comment ça se passe sur un site d'échange.
Un dressing, on prend en photo tous les vêtements qu'on veut échanger. Et lorsqu'il y a un vêtement qui nous plaît chez quelqu'un, on met un petit cœur, un peu comme dans Facebook, j'aime. Et la personne est invitée donc à regarder dans notre dressing s'il y a quelque chose qui peut éventuellement lui plaire. Et après, il y a un système d'échange. Mais en fait, au final, le budget avec les frais de port, ça a commencé à devenir un peu important. Donc j'ai un peu freiné.
Ilman Alla, c'est vous qui organisez cette truck party aujourd'hui chez vous. Oui. Alors, est-ce qu'on peut voir, en allant par exemple dans votre garde-robe, comment vous faites pour assembler des vêtements d'occasion ?
Oui, bien sûr. Tous mes vêtements, c'est des vêtements d'occasion. Tout ce qu'il y a là. Si je vous dis les prix, vous n'allez pas me croire. Celui-là, je l'ai acheté à 1 euro dans une friperie.
1 euro ?
Oui.
Ah oui, c'est un bon investissement.
Oui, la plupart de mes vêtements, je l'ai acheté entre 1 et 10 euros. La vie ici à Paris, elle est très chère. Si j'ai la possibilité d'acheter des vêtements qui coûtent entre 1 et 10 euros, qui me plaisent, ben je les achète au lieu de dépenser 50 euros pour une veste. Et je préfère économiser ça pour voyager que dans le vêtement.
Vous diriez que c'est combien votre budget vêtements ?
Par mois, entre 20 et 30 euros.
C'est pas grand-chose quand on voit votre immense garde-robe.
Non, pas du tout, parce que je cherche toujours des occasions. Ça demande vraiment beaucoup de temps pour chercher. Mélanger différents styles, l'année 50, l'année avec l'année 80, et ça va bien.
Et on sera peut-être très 2014 en faisant ça.
Exactement.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Alors, vos réactions, là, quand on passe sous la couverture radar, qu'on ne sort plus d'argent et qu'on consomme quand même, ça vous évoque quoi, Xavier Charpentier ?
Ça évoque un changement de paradigme, ça évoque quand même une nouvelle société. Ce qui est intéressant quand on pense à ça, c'est qu'on se dit cette volonté, effectivement, de passer, c'est une très bonne expression, de passer sous la couverture radar de la consommation, par le troc, par l'échange, par la réutilisation des choses, par cette idée que finalement, maintenant quand on va jeter quelque chose, qui sera un bien durable ou qui sera un bien électroménager, par exemple, on va vraiment s'assurer qu'il soit absolument inutilisable. Ouais. C'est quand même une nouvelle façon de vivre.
Pendant longtemps, on a dit tout ça, c'est complètement marginal, tout recyclé, etc. Est-ce que le marginal est partout maintenant ou ça reste marginal ?
Alors, ça devient quand même très, ça devient beaucoup plus mainstream que, comme on dit, que par le passé.
C'est-à-dire
qu'à un moment donné, pas forcément un mouvement massif sur un élément de consommation, mais quand on additionne tous ces petits mouvements qui vont vers du moins, on s'aperçoit qu'on n'est plus sur du marginal.
Au point que la grande distribution révise tout, remet tous ces modèles à plat ou pas pour vous, Yves Marin ?
Oui, sous l'impulsion de nouveaux commerces que les professionnels appellent le C2C, c'est-à-dire les consommateurs directement aux consommateurs. Et c'est vrai que des gens comme eBay, comme Le Bon Coin, comme des gens qui font la mise en relation, comme le reportage sur le troc, directement d'un client à un client, sont de plus en plus puissants sur un plan économique et font de l'ombre au Amazon, au Carrefour ou d'autres.
Ouais, ça veut dire que le commerce classique, même via Internet, est mort ? Ou en tout cas, doit se repenser ?
Ou du moins qu'il est en train d'évoluer très fortement, effectivement, et encore une fois, sous l'impulsion du consommateur. Donc on est bien là, de fait, sur un consommateur qui reprend du contrôle, il reprend du pouvoir.
Ça veut dire que toutes ces enseignes-là que vous citiez, de commerce classique, de grande distribution, vont à terme et commencent déjà à licencier, donc c'est le serpent qui se mord la queue ? Il y aura encore plus de crises, encore plus de chômage ?
Ou au moins qui font évoluer leur modèle économique, qui font évoluer leur façon de servir les consommateurs.
Vous n'êtes pas si pessimiste que ça, finalement ?
Non, le commerce, c'est un métier assez ancien, et la réponse d'un commerçant à un client, c'est quelque chose d'assez ancien. Donc on peut penser que ça va durer quand même quelques années.
Et pour vous, Philippe Jourdan ?
Oui, je rebondis sur finalement le terme pessimiste. Moi, je ne suis pas pessimiste, je ne veux pas rajouter dans un discours misérabiliste et décliniste. Je pense qu'on est en train de redécouvrir finalement des formes de relations de proximité, de négociations étendues, d'outils qui permettent effectivement de comparer. La satisfaction et l'envie de consommer, lorsque les moyens sont là, est toujours présente. Et finalement, on a aussi une culture du Sud. On parlait de la négociation, on parlait de l'achat de proximité. Hein, ça a été évoqué au travers des témoignages, qui finalement commence également à nous gagner. Autant d'opportunités pour redéfinir un marketing peut-être moins agressif, peut-être plus à l'écoute, et de mettre consommateurs et fabricants à peu près au même niveau, ce que l'on avait peut-être oublié de faire dans les années de croissance.
L'agressivité, elle est peut-être du côté du consommateur maintenant. Je suis prêt à acheter ça, combien, qui est d'accord pour me vendre ça à ce prix-là, ce que vous nous racontiez tout à l'heure? Oh, ça semble une révolution.
Oui, on peut le voir comme une forme d'agressivité du consommateur. Maintenant, la négociation, j'allais dire, elle fait partie aussi des traditions culturelles dans certains pays, et ça se vit pas comme un acte agressif, ça se vit au contraire comme une conversation parfois très agréable, et l'occasion d'un échange.
Xavier Charpentier, alors dans 10 ans, la société de consommation telle qu'on la connaissait depuis l'après-guerre dans les pays développés ressemblerait à quoi?
Ça, c'est très difficile de vous répondre parce que j'ai pas pris ma boule de cristal ce matin.
C'est en principe à ça que vous payez les grands clients, non?
À horizon de 10 ans, vraiment vous dire exactement ce qui va se passer, c'est compliqué. Non, tout ce qu'on peut dire de façon plus modeste, c'est que on voit quand même une accélération des changements, ça c'est clair. Si on parle par exemple d'un site comme Le Bon Coin, c'est tout à fait étonnant de se dire Le Bon Coin, c'est un peu comme
entre particuliers, des choses d'occasion.
C'est un peu comme Facebook. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens nous parlent du Bon Coin comme quelque chose de complètement installé dans le paysage. C'est vraiment devenu banal.
Ça fait partie de la
vie. En fait, c'est relativement récent, Le Bon Coin.
Tout à fait.
Merci à vous trois. Xavier Charpentier, directeur général associé de Free Thinking Publicis. Vous êtes l'auteur de cette étude Rétention, déflation, réinvention. Philippe Jourdan, vous définissez comme un consologue et vous êtes PDG de Promise Consulting, cabinet d'études marketing, conseil en stratégie de marque. Vous avez publié un nouveau consommateur, nouveau marketing chez Duno. Et également, parmi nous, Yves Marin, vous êtes du cabinet Kurt Wallmann, donc spécialisé dans la grande distribution. Merci à toute l'équipe et merci à toutes vos réactions.